Chapitre 2 et 3 L'ordre de la maison de Dieu. Dans cette division de l'épître, l'apôtre présente le caractère de la maison de Dieu, chapitre 2, versets 1 à 4, le témoignage de la grâce de Dieu qui se répand en dehors de la maison, chapitre 2, versets 5 à 7, la conduite qui convient aux hommes et aux femmes qui forment cette maison, chapitre 2, versets 8 à 15, les qualifications nécessaires à ceux qui exercent un service dans la maison, chapitre 3, versets 1 à 13, et enfin le mystère de la piété, chapitre 3, versets 14 à 16. Chapitre 2 Versets 1 à 4 La maison de Dieu, une maison de prière pour toutes les nations, selon ce qui est dit en Marc 11, verset 17, citation du verset 7 du chapitre 56 d'Ésaïe. Citation de l'Écriture. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Fin de citation. La maison de Dieu est caractérisée comme un lieu de prière. Les demandes qui montent à Dieu, de sa maison, doivent être marquées par des supplications ou plaidoyers faits avec instance pour les besoins spéciaux survenant à l'occasion de circonstances particulières, des prières qui expriment des désirs généraux appropriés pour tous les temps, des intercessions qui impliquent que les croyants sont dans une proximité de Dieu qui leur permet de plaider pour d'autres, et enfin des actions de grâce qui évoquent des cœurs conscients de la bonté de Dieu qui se plaît à répondre aux prières des siens. Dans l'Épître aux Éphésiens, qui présente la vérité de l'Église dans sa vocation céleste, nous sommes exhortés à prier avec des supplications pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Ici, dans la première épître à Timothée, où l'Église est considérée comme le vase du témoignage de la grâce de Dieu, nous avons à faire des supplications pour tous les hommes. Nous sommes en particulier appelés à prier pour les rois et tous ceux qui sont en situation d'autorité, ceux qui sont en mesure d'influencer le monde en bien ou en mal. Ce n'est pas seulement pour le roi ou notre roi que nous devons prier, mais pour les rois. Cela suppose que nous réalisons nos liens avec le peuple du Seigneur à travers tout le monde comme faisant partie de la maison de Dieu et la vraie position de l'Église comme se tenant dans une sainte séparation du monde et ne participant pas à sa politique ou à son gouvernement. Dans le monde, mais pas du monde, l'Église a le grand privilège de prier, intercéder et rendre grâce en faveur de ceux qui ne prient pas pour eux-mêmes. L'apôtre donne deux raisons pour prier pour tous les hommes. Tout d'abord, la prière pour les rois et ceux qui sont en situation d'autorité est demandée à cause du peuple du Seigneur dans le monde entier. Nous devons chercher à ce que la bonté souveraine de Dieu contrôle les gouvernements de ce monde de sorte que les siens puissent mener une vie paisible et tranquille en toute piété et gravité. Note du traducteur. Darby a traduit en anglais par « gravité » ce qu'il a traduit en français par « honnêteté ». C'est évidemment la pensée de Dieu qu'en passant par ce monde hostile, les siens mènent une vie paisible sans s'affirmer et faire respecter ses droits comme s'ils étaient citoyens de ce monde, dans la tranquillité qui se garde de prendre part aux disputes du monde, dans la piété qui reconnaît Dieu dans toutes les circonstances de la vie, et dans la gravité pratique devant les hommes. Le prophète Jérémie avait autrefois envoyé une lettre au peuple de Dieu captif à Babylone, les exhortant à rechercher la paix de la ville où ils étaient tenus en servitude, en priant l'Éternel pour elle, car, dit le prophète, « dans sa paix sera votre paix. » Jérémie 29, verset 7. Dans le même esprit, Nous devons rechercher la paix du monde afin que le peuple de Dieu puisse avoir la paix. Une deuxième raison est ensuite donnée pour les prières du peuple de Dieu en faveur de tous les hommes. Prier pour tous les hommes est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous devons prier non seulement en vue du bien de tous les saints, mais aussi en vue de la bénédiction de tous les hommes. Le monde peut parfois persécuter le peuple de Dieu et chercher à faire venir sur lui toute la haine de son cœur contre Dieu. Si nous ne marchons dans le jugement de nous-mêmes, subir un tel traitement conduit la chair à la rancune et au désir de vengeance. Ici, nous apprenons qu'il est bon et agréable devant Dieu d'agir et d'avoir des sentiments envers tous les hommes comme Dieu lui-même, en amour et en grâce. Nous devons ainsi prier pour tous les hommes, non pas seulement pour ceux qui gouvernent bien, mais aussi pour ceux qui traitent le peuple de Dieu avec mépris. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. Luc 6, verset 28. Nous devons prier non pour que le jugement rétributif atteigne les persécuteurs du peuple de Dieu, mais afin qu'ils soient sauvés par la grâce souveraine. Versets 5 à 7. La maison de Dieu, un témoin de la grâce de Dieu. Citation de l'Écriture. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, témoignage qui devait être rendu en son propre temps, pour lequel moi, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Fin de citation. La maison de Dieu n'est pas seulement le lieu où les prières montent vers Dieu, mais c'est aussi le lieu d'où un témoignage se répand envers les hommes. En temps voulu, Dieu agira en jugement vis-à-vis des méchants, et même maintenant, il agit parfois en gouvernement vis-à-vis de ceux qui s'opposent à la grâce de Dieu et aux serviteurs de sa grâce, comme Hérode rongé par les vers et Élimas rendu aveugle. Acte 12, verset 23, acte 13, verset 6 à 11. En outre, Dieu peut aussi, dans des occasions solennelles, agir en jugement gouvernemental à l'égard de ceux qui forment la maison de Dieu pour maintenir la sainteté de sa maison, comme le montre le jugement terrible d'Ananias et Saphira, et plus tard de certains de l'assemblée à Corinthe. Acte 5, versets 1 à 10, 1 Corinthiens 11, versets 30 à 32. De tels cas sont toutefois le résultat des voies directes de Dieu. La maison de Dieu en tant que telle doit être un témoignage à Dieu, comme le Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu dans ce passage ne fait pas référence aux conseils de Dieu qui ne manqueront pas de s'accomplir. Elle est l'expression de la disposition de Dieu envers tous. Dieu se présente comme un Dieu sauveur qui veut que tous soient sauvés. Cependant, si des hommes doivent être sauvés, ce ne peut être que par la foi qui reconnaît la vérité. Cette vérité, la maison de Dieu en est la colonne et le soutien. Chapitre 3, verset 15. Aussi longtemps que l'assemblée est sur la terre, elle est le témoin et le soutien de la vérité. Quand l'assemblée sera enlevée, les hommes tomberont sur le champ dans l'apostasie et seront livrés à une énergie d'erreur. Deux grandes vérités sont placées devant nous comme la base sur laquelle Dieu agit envers les hommes en grâce souveraine. D'abord, il y a un seul Dieu, ensuite, il y a un seul médiateur. Qu'il y ait un seul Dieu, cela avait été pleinement déclaré avant que Christ vienne. L'unicité de Dieu est la grande vérité fondamentale de l'Ancien Testament. C'était le grand témoignage confié à Israël, comme nous lisons, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Deutéronome 6, verset 4. C'était le grand témoignage qui devait se répandre d'Israël vers les nations, selon que nous lisons, « Que toutes les nations soient réunies ensemble, qu'ils entendent et disent, « C'est la vérité. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous compreniez que moi je suis le même. » Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. Moi, je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Ésaïe 43, versets 9 à 11. Le christianisme, tout en maintenant la grande vérité qu'il y a un seul Dieu, présente en plus la vérité tout autant importante qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cette dernière vérité est spécifique au christianisme. Trois grandes vérités sont présentées comme caractérisant le médiateur. D'abord, il n'y en a qu'un. Si Dieu est un, unique, il est également important de se souvenir de l'unicité du médiateur. Il y a un seul médiateur et aucun autre. La papauté et d'autres systèmes religieux corrompus de la chrétienté ont renié cette grande vérité et ont porté atteinte à la gloire du seul médiateur en établissant Marie, la mère du Seigneur, et d'autres hommes ou femmes canonisés comme médiateurs. Deuxièmement, le seul médiateur est un homme, afin que Dieu puisse être connu des hommes. L'homme ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu, mais Dieu, dans son amour, pouvait s'abaisser jusqu'à l'homme. Quelqu'un a dit « Il est venu dans les plus basses profondeurs afin que personne, même le plus misérable, ne puisse sentir que Dieu était près de lui en bonté, qu'il était venu à lui ici-bas, son amour trouvant occasion dans la misère, et qu'il n'y avait aucun besoin ou qu'il n'était pas présent auquel il ne pouvait répondre. » Pensée de J.N. Darby. Troisièmement, ce médiateur s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour que Dieu soit proclamé comme Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, il fallait que sa sainteté soit revendiquée et sa gloire maintenue. Cela a été parfaitement accompli par l'œuvre propitiatoire de Christ. La majesté, la justice, l'amour et la vérité de Dieu, et tout ce qu'il est, ont été glorifiés dans l'œuvre accomplie par Christ. Il est la propitiation pour le monde entier. Tout ce qui était nécessaire a été fait. Son sang est à la disposition du plus vil qui soit. C'est pourquoi l'Évangile pour le monde dit « Que celui qui veut vienne ». Sous cet aspect, nous pouvons dire que Christ est mort pour tous, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, un sacrifice pour le péché disponible pour quiconque vient. Christ a goûté la mort pour tout. Voilà les grandes vérités auxquelles il devait être rendu témoignage au temps voulu. La grâce de Dieu offrant le pardon et le salut à tous sur la base de l'œuvre de Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quand Christ est monté dans la gloire et que le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour habiter au milieu des croyants et les former ainsi en une maison de Dieu, le temps propre ou temps voulu était venu. Le témoignage devait se répandre à partir de cette maison, l'apôtre étant celui utilisé par Dieu pour prêcher la grâce et pour ouvrir ainsi la porte de la foi aux nations. Acte 14, verset 27. Il peut donc parler de lui-même comme d'un prédicateur, d'un apôtre et d'un docteur des nations, enseignant les gentils, dans la foi et dans la vérité. Versets 8 à 15. La conduite qui convient aux hommes et femmes qui forment la maison. Citation de l'Écriture. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent, avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant, si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. Fin de citation. Nous avons vu dans la première partie du chapitre que la maison de Dieu est un lieu de prière pour tous les hommes, verset 1, le témoin de la disposition de Dieu en grâce envers tous les hommes, verset 4, et le témoin au seul médiateur, l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Verset 6. Si tel est le grand objectif de la maison de Dieu, il s'ensuit que rien ne doit être toléré dans la maison de Dieu qui gâterait ce témoignage, de la part tant des hommes que des femmes qui forment la maison. L'apôtre se met donc à donner des instructions détaillées sur le comportement de chaque catégorie. Ce témoignage à la grâce de Dieu n'envisage pas qu'il y ait un certain nombre de croyants intéressés à rendre un témoignage particulier et se groupant ensemble pour servir. Ce n'est pas un groupe d'évangélistes se donnant au travail de l'Évangile ou au service missionnaire. Tous les saints sont présentés comme ayant un intérêt commun au témoignage qui émane de la maison de Dieu. Tout d'abord, l'apôtre parle des hommes en contraste avec les femmes. Les hommes dans la maison de Dieu doivent être marqués par la prière. L'apôtre parle de prière en public, et en de telles occasions, le droit de prier est réservé aux hommes. De plus, l'instruction donnée ne contient aucunement la pensée d'une classe officielle conduisant la prière. La prière en public n'est pas limitée aux anciens ou à des hommes ayant un don, car la prière n'est jamais considérée dans l'Écriture comme une question de don. Ce sont les hommes qui doivent prier, et la seule restriction est qu'un bon état moral soit maintenu. Ceux qui prient en public doivent être marqués par la sainteté, et leurs prières doivent être sans colère et sans raisonnement. Celui qui est conscient d'un mal non jugé, dans sa vie, n'est pas en condition de prier. En outre, la prière doit être sans colère. C'est une exhortation qui condamne totalement l'utilisation de la prière pour faire des attaques voilées contre les autres. Derrière ces prières, il y a toujours de la colère ou de la malice. En outre, la prière doit être en simplicité de foi et non pas avec de vains raisonnements d'hommes. Les femmes doivent être marquées par une tenue décente, le sens du mot « tenue » étant la tenue et le costume, le costume étant un signe de la tenue. Ceci indique clairement que c'est non seulement dans l'habillement, mais aussi dans leur conduite générale que les femmes doivent être marquées par la pudeur qui se retient de toute inconvenance et par la discrétion qui conduit à veiller à ses paroles et à ses voix. Quant à la chevelure que Dieu leur a donnée comme gloire, elles doivent se garder de l'utiliser pour exprimer la vanité naturelle du cœur humain. Les femmes ne doivent pas chercher à attirer l'attention sur elles-mêmes en se parant d'or ou de perles ou d'habillements somptueux. Les femmes feront bien de se rappeler qu'elles peuvent obéir à ce passage de l'Écriture dans sa lettre et malgré tout passer à côté de l'esprit de ce passage en faisant parade de quelque habit particulier, attirant ainsi l'attention sur elles-mêmes. La femme professant craindre Dieu sera marquée non pas par l'affectation d'une spiritualité supérieure, mais par de bonnes œuvres. Leur place dans le christianisme est bienséante et belle. Elle se trouve dans ces bonnes œuvres, dont beaucoup ne peuvent être réalisées que par une femme. Nous voyons, dans les évangiles, comment des femmes assistaient Christ de leurs biens. Luc 8, verset 3. Marie a fait une bonne œuvre à l'égard du Seigneur en oignant sa tête avec l'huile précieuse. Matthieu 26, versets 7 à 10. Dorcas faisait de bonnes œuvres en confectionnant des vêtements pour les pauvres. Acte 9, verset 39. Marie, la mère de Jean, Marc, ouvrit sa maison pour que beaucoup s'y rassemblent pour la prière. Acte 12, verset 12. Lydie, dont le Seigneur avait ouvert le cœur, fit une bonne œuvre en ouvrant sa maison aux serviteurs du Seigneur. Acte 16, versets 14 et 15. Priscilla a fait une bonne œuvre quand, avec son mari, elle aida Apollos à connaître plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, verset 26. Phoebé de Sancré a été en aide à plusieurs. Romains 16, verset 2. D'autres passages nous disent que des femmes pieuses peuvent laver les pieds des saints, soulager les affligés, élever des enfants et conduire leur maison. Ici, nous lisons qu'en public, la femme doit apprendre dans le silence. Elle ne doit pas usurper l'autorité pour l'exercer sur l'homme. L'apôtre donne deux raisons pour la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Tout d'abord, le fait qu'Adam a eu la place de prééminence dans la mesure où il a été formé le premier, Ève ensuite. Une deuxième raison est qu'Adam n'a pas été trompé, mais la femme l'a été. En un sens, Adam a été pire que sa femme, car il a péché sciemment. Néanmoins, la vérité soulignée par l'apôtre est que la femme a montré sa faiblesse en ce qu'elle a été séduite. En effet, Adam aurait dû maintenir son autorité et conduire la femme dans l'obéissance. Elle a été séduite dans la faiblesse, a usurpé la place d'autorité et a conduit l'homme à la désobéissance. La femme chrétienne reconnaît ces choses et veille à garder la place de soumission et de tranquillité. Ève a souffert à cause de sa transgression, mais la femme chrétienne trouvera que la miséricorde de Dieu surabonde par rapport à son jugement gouvernemental si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. De même que nous avons déjà vu que la persévérance dans le saint enseignement dépend largement d'un bon état moral, chapitre 1, versets 5 et 6, ici aussi, nous voyons que la miséricorde, dans le domaine des choses temporelles, est liée à un bon état spirituel.